Vous écoutez France Culture, aucun doute là-dessus. Bonjour.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour, bonjour Julie Gacon. Il est 6h45, c'est donc l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, comment la crise en politique en Bolivie a révélé les divisions des pays d'Amérique latine.
Oui, un épisode résume à lui seul l'incapacité des États sud-américains à s'entendre sur le sort d'un des leurs. C'est le périple d'Evo Morales pour rejoindre son asile politique au Mexique. Parcours rocambolesque raconté notamment par le correspondant du journal Le Monde à Mexico. Alors je vous résume à gros traits. Le 11 novembre dernier, un avion de l'armée mexicaine décolle pour aller chercher Evo Morales. Après quelques mésaventures, il réussit à se poser sur le sol bolivien et à récupérer le président destitué. Mais il faut faire le plein d'essence, en toute logique, au Pérou, qui est le premier sur la route du retour. Or, celui-ci lui refuse cette faveur. Il faut donc diriger l'avion vers le sud, car le Paraguay, lui, veut bien mettre ses réserves de kérosène à disposition. Mais une fois l'avion ravitaillé, il est nécessaire de repasser par la Bolivie en direction du nord, sauf que le gouvernement provisoire à La Paz ne veut pas que l'avion du président déchu survole ce qu'il considère désormais comme son territoire. Qui va alors sauver la situation? Le Brésil. Le Brésil de Jair Bolsonaro, pas vraiment un ami d'Evo Morales, mais qui, pour l'occasion, accepte que l'appareil longe sa frontière avec la Bolivie. Evo Morales qui débarque donc à Mexico le 12 novembre, jour où se réunissait en session extraordinaire le Conseil permanent de l'OEA, l'Organisation des États américains. Bonjour Kevin Partenay.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes professeur des universités à Tours en sciences politiques, attaché aux séries Sciences Po. On a quitté l'avion d'Evo Morales, Kevin Partenay. On est cette fois à Washington avec cette session extraordinaire de l'OEA et c'est vous qui nous racontez la suite.
Oui, alors cette session extraordinaire, elle a une vocation unique, c'est-à-dire d'essayer de remettre autour de la table toutes les nations latino-américaines pour essayer de renouer le dialogue d'une part et essayer de trouver des sorties pour cette crise qui a émergé. Cette session a été convoquée par différents États, le Brésil en l'occurrence, et l'idée était de pouvoir essayer de trouver une solution pour faciliter un retour, l'organisation de nouvelles élections et un retour à la paix et à l'ordre constitutionnel.
D'ailleurs, pourquoi le Brésil? Ça vous a surpris? Quel rôle il veut se donner dans cette histoire et pourquoi a-t-il accepté que l'avion survole?
Le Brésil n'était pas le seul à convoquer cette réunion. On trouvera aussi le Canada, on trouvera l'Argentine et deux ou trois autres États se sont joints pour convoquer cette session extraordinaire. Néanmoins, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, le Brésil, sur cet épisode-là, a joué un rôle de facilitateur. Ce qui est assez contre-intuitif vis-à-vis de la politique et de la diplomatie actuelle de Jair Bolsonaro, qui est plutôt, on va dire, ancré sur des bases relativement conflictuelles et d'opposition vis-à-vis de ses voisins. Là, en l'état, on voit qu'il y a eu un rôle facilitateur. Et la diplomatie brésilienne, et sa tendance à s'autonomiser un tout petit peu de la présidence, je pense, l'explique d'une certaine façon.
Alors, lors de cette session extraordinaire de l'OEA, qui est donc l'Organisation des États américains qui a vu le jour en 1948, c'est une arène multilatérale pour le continent américain, pour le dire vite. Je crois que tous les pays sont représentés, sauf Cuba, oui. Suspendu depuis 1962. Comment on retrouve dans cette session extraordinaire une Amérique latine en deux camps, ceux qui ont soutenu Evo Morales et qui dénoncent un coup d'État du 10 novembre orchestré par la droite raciste et conservatrice des basses terres dans l'est du pays et ceux au contraire qui l'avaient encouragé à partir.
Oui, alors on retrouve vraiment une opposition qui est marquée depuis plusieurs années, depuis l'émergence surtout de la crise vénézuélienne qui a eu un effet très clivant en fait au sein de cette organisation multilatérale. Il faut bien comprendre que c'est, comme vous l'avez dit, c'est une arène multilatérale où les intérêts nationaux vont s'opposer et nécessairement on retrouve l'opposition de certaines coalitions, qu'elles soient politiques ou idéologiques. Pendant de nombreuses années, on va dire que la vague majoritaire, elle était progressiste. C'est la fameuse décennie du tournant à gauche, même si vraiment une très très grande hétérogénéité des gauches en Amérique latine. Mais néanmoins, on avait une majorité de ce type de gouvernement. Aujourd'hui, on a une situation qui est complètement différente, avec depuis 2014 un retour des forces conservatrices. On a même postulé il y a quelques mois avec un super cycle électoral qui allait avoir une vague conservatrice pour l'Amérique latine, un retour à droite. C'est pas tout à fait le cas. Je pense que c'est une hypothèse qui est aujourd'hui tout à fait nuancée, mais on a vraiment une opposition entre différentes forces.
Donc très logiquement, lors de cette session extraordinaire, on s'est plutôt prononcé contre Evo Morales, en tout cas.
Alors il y a eu effectivement beaucoup d'États qui se sont positionnés. Alors c'est pas véritablement en fait contre ou pour Evo Morales, c'était plus subtil. La stratégie, en tout cas, ce qu'on peut lire en filigrane, c'est que les États ont essayé d'éviter d'employer certaines catégories qui elles sont clivantes. En l'occurrence, le coup d'État. Certains États, 15 en l'occurrence, qui, pour reprendre vos propos, ne sont pas véritablement en soutien d'Evo Morales, ont surtout en fait essayé d'éviter d'employer de la catégorie coup d'État pour dire, voilà, il faut tout simplement réorganiser des élections, revenir à une situation politique normale, avec une transition et donc de nouvelles élections. Les autres, pour le coup, ont véritablement accusé cette déstabilisation, cette rupture de l'ordre constitutionnel en utilisant le terme de coup d'État civilo-militaire. On retrouve les États qui sont généralement en soutien, de l'ex-bloc bolivarien, le Venezuela, le Nicaragua en l'occurrence, beaucoup d'États de la Caraïbe qui, là, alors c'était une surprise pour moi sur cet épisode-là, la Caraïbe n'est pas toujours alignée dans ses positions diplomatiques, et là on peut observer que l'alignement a été assez... total.
Vous dites le Venezuela, mais le Venezuela est représenté aujourd'hui à l'OEA, par Nicolas Maduro, mais par Guaido.
Tout à fait. Alors, vous avez raison de préciser, tout à fait. Les autorités représentant le Venezuela sont celles du gouvernement reconnu par beaucoup d'États de la planète, donc de Juan Guaido.
Une cinquantaine de pays ont reconnu
exactement.
Juan Guaido, qui est en fait le chef de file de l'opposition, comme le président par intérim.
Tout à fait, oui. Néanmoins, les soutiens du Venezuela se sont faits depuis l'extérieur, l'extérieur de l'organisation, et notamment via d'autres organisations régionales réputées dans le continent, notamment l'ALBA, qui est, on va dire, l'incarnation de cette idéologie bolivarienne et qui est toujours en activité.
L'OEA n'est pas la seule instance de dialogue en Amérique latine. En deux mots, d'ailleurs, qu'est-ce que ça dit, le fait que ce soit Juan Guaido et non pas Nicolas Maduro qui représente le Venezuela à l'OEA? Qu'est-ce que ça dit de cette instance qui est très régulièrement accusée par les pays du bloc bolivarien de représenter les intérêts des États-Unis?
Alors, ça dit deux choses. Ça dit, d'une part, la traduction donc historique de ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire qu'une accusation un peu systématique, et souvent à raison d'ailleurs, historiquement l'histoire l'a prouvé, que c'est une organisation qui est à la main de Washington et qui sert à déployer des programmes politiques ou à envoyer des signaux, des messages vis-à-vis du sud du continent, depuis la guerre froide où l'OEA était une arme anticommuniste jusqu'à aujourd'hui où on voit qu'il y a une tentative de renforcer certaines positions et notamment celle du Venezuela, on voit qu'il y a cette dynamique qui est toujours très présente. Après, on voit aussi qu'il y a une dimension de politisation très très forte de l'OEA. En tant qu'organisation multilatérale, normalement, en tant qu'organisation qui reçoit des délégations par les États, profondément intergouvernementales, les prises de position devraient être beaucoup plus nuancées. Néanmoins, on voit qu'il y a une reconnaissance d'un gouvernement qui est d'opposition à Maduro, qui est reconnu par beaucoup d'États de la planète, mais pas de manière unanime. Mais en l'occurrence, l'OEA a fait le choix de reconnaître le régime exceptionnel de Juan Guaido, ce qui traduit bien une politisation de l'organisation et ça se voit aussi par les positions qui sont très très fortes, très marquées de son secrétaire général Luis Almagro, qui est également une figure profondément accusée d'être instrumentalisée par Washington.
C'est aussi parce que ces États-Unis ont été très souvent en creux de grands mouvements politiques en Amérique latine dans les années 70-80 que, évidemment, très vite, le soupçon d'une ingérence américaine dans la crise politique en Bolivie et le renversement, la destitution d'Evo Morales a été avancé par plusieurs opposants à ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir, en attendant par intérim en Bolivie. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour savoir ce qui a pu se passer? Est-ce que les États-Unis auraient intérêt à déstabiliser la Bolivie d'Evo Morales?
Alors là encore, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent par l'histoire que j'évoquais de l'organisation. Je crois qu'on est tous bien en peine de dire quoi que ce soit sur le sujet. À mon humble avis, l'absence d'information fait que tout ce qui est étayé et développé sur le sujet d'une potentielle instrumentalisation, manipulation du pouvoir américain en la matière, relève très largement du fantasme, puisque par nature, ce type d'action, ce type d'influence ne sont pas forcément des gestes diplomatiques affichés.
Des
agents présents sur le terrain, et c'est des choses précisément qu'on ne peut pas savoir. De manière immédiate, l'histoire plus tard dira ce qu'il en est quand les archives seront déclassifiées. Aujourd'hui, on voit, puis on peut étayer qu'il y a eu des influences au cours de l'histoire, dans l'histoire du continent. Aujourd'hui, je crois que franchement, on est bien en peine de dire quoi que ce soit. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut adopter une grande réserve. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on peut estimer assez étrange que le pouvoir, la présidence de Donald Trump, qui relève d'une gestion diplomatique un peu chaotique d'une certaine façon, parviennent à élaborer des stratégies à ce point élaborées pour déstabiliser des régimes éloignés dont les intérêts stratégiques sont plutôt relatifs et lointains. On peut émettre des doutes. Alors, objectivement sur les informations, on n'en a pas, et sur les hypothèses qu'on peut formuler, moi je formulerais plutôt des doutes sur cette instrumentalisation.
Et son avocat Giuliani était sur un autre front, il était en Ukraine et pas en Bolivie en tout cas. Est-ce qu'on peut, pour conclure, Kevin Partenay, compter sur l'organisation des États américains pour surveiller ce que fera le gouvernement provisoire en Bolivie mené par l'ultra-droite qui a visiblement très largement outrepassé ses attributions censées se limiter à l'organisation de nouvelles élections? Il y a encore eu des morts cette nuit, 3 morts dans des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre.
Oui, alors on peut quand même observer une situation qui est délicate sur le sujet parce que l'OEA n'a pas l'air de suivre vraiment de manière très profonde les événements. Après, bon, je pense qu'il ne faut pas s'en étonner aussi. La Bolivie était très très critique de l'organisation pendant des années, et pour ce qui se passe par rapport à l'opposition, je suis pas sûr que ça suscite l'envie pour l'organisation d'intervenir. Et puis par ailleurs, l'organisation est très politisée, donc même si le suivi se fait des événements, on va dire la neutralité est très largement attaquée.
Merci beaucoup. Merci Kevin Partenay d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Bonne journée.